David Lefrançois, bonjour. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation sur Radio Cannes en français. Alors, c'est gentil. Alors, David Lefrançois, je vais vous présenter à nos auditeurs, même si je sais, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes très connu.
Si, je le suis encore.
Je vous assure que non. Alors, justement, à ce sujet, j'ai lu que vous étiez hissé au rang des experts du comportement humain. Que votre réputation n'est ainsi plus à faire, lit-on un peu partout. Votre palmarès est impressionnant. Vous êtes psychologue et docteur en neurosciences, coach de développement personnel, formateur de coach et auteur de plusieurs livres. Vous vouez une passion sans égale pour la neuroscience et vous avez une autre passion, celle d'aider les autres à se réaliser. Vous êtes philanthrope, dans l'âme. Vous dites, je vous cite, « L'homme est programmé pour être heureux ». Alors évidemment, la première question qui me vient à l'esprit, vous vous en doutez, David Lefrançois, êtes-vous heureux ?
Alors écoutez, moi, je suis très heureux. Je ne suis pas heureux, je suis très heureux. Je suis un homme heureux, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des problèmes, des soucis au quotidien, du stress. Mais globalement, je suis vraiment quelqu'un d'heureux. Voilà. Je suis heureux de la vie que je mène, je suis heureux de l'environnement dans lequel je vis, je suis heureux des relations que j'ai dans mon couple, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes clients, avec la communauté que j'ai réussi à créer sur ces 10 dernières années.
D'accord.
Je suis quelqu'un de très heureux.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à vos performances, puisque vous êtes un assidu, un spécialiste de la neuroscience, vous êtes arrivé en quelque sorte à être heureux, mais à gérer l'ensemble des problèmes du quotidien pour être finalement libéré et être enfin heureux. Pensez-vous que vos compétences vous ont aidé dans la vie au quotidien ?
Oui, absolument. En fait, moi, j'ai eu de la chance, très jeune, j'ai fait de la compétition sportive.
Très bien.
Et j'ai compris à travers cette dimension-là qu'on n'avait rien sans discipline, en fait. Qu'on n'obtenait aucun résultat supérieur. C'est-à-dire, dans la compétition, on sait très bien qu'on va concourir et qu'on, même si vous êtes des milliers à concourir, il y en a que trois qui vont monter sur le podium. Hein. Donc, ça veut dire que ces trois-là sont globalement ceux qui se sont entraînés le plus, mais à plusieurs niveaux. Se sont entraînés le plus au niveau physique, c'est-à-dire qu'ils ont fait les efforts physiques nécessaires pour pouvoir en arriver là. Ils ont fait aussi des efforts au niveau cognitif, c'est-à-dire qu'ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils se sont organisés pour y arriver. Et puis, d'accord, il y a aussi des efforts au niveau de la stratégie émotionnelle. Donc, je pense que, d'abord, cette école-là, cette école de la confrontation aux autres, puis de la confrontation à soi, à travers cette confrontation aux autres, ça m'a vraiment permis de savoir que on pouvait obtenir presque tout ce qu'on voulait dans la vie si on s'en donnait les moyens. Ça veut dire que si on faisait les efforts qui vont avec, quoi. Voilà.
Alors oui, ça je le comprends bien. Donc vous partez du constat simple, entre guillemets, qu'il faut avoir un mental à toute épreuve, se contrôler ses émotions, continuer d'avancer et savoir que de toute façon, il faut gagner. En quelques mots, ça résume un petit peu ce que vous me dites, il y a des nuances.
Et qu'il faut aussi perdre.
Ah, très bien.
Je vais vous dire que l'échec, pour moi, il est tout aussi important que la réussite. Moi, je suis un professionnel de l'échec, c'est-à-dire
c'est magnifique.
Vous savez, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on pense qu'on est des machines à réussir, parce qu'on a des followers, parce qu'on a notre entreprise de formation qui tourne bien. Mais tout ça s'est fait au prix de très gros échecs, bien sûr. Et ces échecs, en fait, ils ont été marquants, ils ont été instructeurs. On n'apprend rien d'une expérience délicieuse. Mm-hmm. Et moi, je bénis vraiment Dieu tous les jours de m'avoir donné aussi les échecs nécessaires, quoi.
Alors là, vous avez introduit une question sans le vouloir, parce que je ne souhaitais pas spécialement en parler. Vous avez dit le mot Dieu. Et du coup, je rebondis sur quelque chose qui a été extrêmement viral, on va dire, sur les réseaux sociaux. La révélation de votre judaïsme. et qui n'est pas très loin de l'histoire de Dracula. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots comment vous êtes venu?
En quelques mots, moi, à l'époque, je travaillais pour la Guilde européenne pour le développement des pays de l'Est. C'est-à-dire qu'on partait à 7 experts, partait dans les pays de l'Est qui allaient rejoindre la communauté européenne. Et chaque expert avait sa particularité. Il y en avait dans l'innovation, la sécurité, l'économie. Et moi, j'étais sur la motivation, et notamment la motivation humaine. Et on partait comme ça plusieurs semaines dans les pays. Et puis, on donnait des conférences et on était traduits. Et un jour, j'étais tout proche de la Roumanie et j'ai demandé à ma traductrice de voir deux choses. La première, c'était le château de Dracula, parce que j'avais écrit un mémoire là-dessus. Et puis, la deuxième, c'était... la tombe de mon arrière-grand-mère, qui je savais était dans un village en Roumanie, mais je n'arrivais pas à retrouver où était le village. Et voilà, elle a retrouvé les deux, et les deux s'avéraient très extrêmement proches, hein, puisque c'était à même pas un kilomètre du château. Et quand je suis allé dans ce cimetière, j'ai appris que j'étais juif, en fait. J'ai découvert que j'étais juif grâce à la tombe de ma grand-mère, non, mon arrière-grand-mère.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de personnes vous ont découvert sur YouTube il y a pas mal d'années, donc pas mal de temps, avec cette intuition, on va dire quasi collective, que vous étiez juif, même si ce n'était pas encore révélé. Et ça, c'est très intéressant. En fait, ça voudrait dire en quelque sorte que votre approche est très proche de la sagesse juive, à votre insu certainement, mais peut-être aussi que ça se transmet. Peut-être pas dans l'ADN, quelque part si, et vous le saviez sans le savoir, mais vous aviez cette approche qui était extraordinaire. C'est vrai, quand on vous écoute, on le comprend.
En tout cas, ouais. Moi, je tire une grande partie de mes valeurs de ma maman, qui a même tiré des valeurs de sa grand-mère. Et voilà, et sa grand-mère était juive, comme ma mère, qui s'en doutait, mais à qui j'ai vraiment appris en plus... où et comment, je pense que c'est dans notre ADN. Mmh. Et vous savez, pour l'anecdote, moi j'ai un frère jumeau, et quand nous sommes nés, ma mère, elle avait dit à la sage-femme, mon ventre est très gros, j'ai le sentiment d'avoir deux enfants. Et la sage-femme lui dit, écoutez, vous dites n'importe quoi, chacun son métier. Et le jour où elle a accouché, très rapidement, elle lui dit, écoutez, restez sur la table parce qu'il y en a un deuxième qui arrive.
Oh.
Et mon père n'était pas présent ce jour-là, il s'est parti à la pêche. Et donc, ils avaient tout prévu pour un enfant, mais pas pour le deuxième. Et quand ils lui ont demandé le nom, mon nom à moi, ma mère, elle a été prise au dépourvu, et elle a dit, bah, écoutez, David. Et quand j'ai posé la question à ma mère, elle a dit, maman, pourquoi David? Parce qu'on n'a aucune référence dans notre famille qui sont liées à des David. Est-ce qu'il y avait un héros pour toi qui s'appelait David? Elle dit, non, je ne sais pas, c'est le premier prénom qui m'est venu à l'esprit. Voilà. Et finalement, ça m'a bien servi parce que du coup, quand j'ai fait valoir mon judaïsme, je n'ai pas eu besoin de changer de prénom, quoi que ce soit.
Alors,
un beau prénom au final.
Oui. Vous savez que dans la Torah, enfin du moins dans le Talmud, il est dit qu'il y a la Neuva Akhtana, c'est-à-dire la petite prophétie que toute maman juive ressent, c'est-à-dire au moment où elle doit donner le prénom d'un enfant, même évidemment avant la naissance, hein, ça arrive souvent, on a cette espèce de prémonition. Et on dit, elle devra s'appeler ainsi ou il devra s'appeler ainsi. Donc apparemment, votre maman, effectivement, elle était aussi, elle a reçu aussi cet héritage, cette intuition juive qui fait qu'on s'est nommé un enfant. C'est magnifique. Alors maintenant, on va revenir sur votre travail parce qu'on est quand même curieux. Le judaïsme, c'était important. L'identité, évidemment, c'est ce qui fait ce que vous êtes. Mais moi, j'aimerais savoir comment remodèle-t-on un cerveau? Peut-on vraiment effacer les traumatismes ou du moins les contourner? Quelles sont les techniques? Alors oui, je sais bien qu'en 10 minutes, on aura à peine le temps d'effleurer le sujet, mais donnez-nous quelques brides, quelques indices.
Alors, moi, je ne suis pas adepte d'essayer de contourner quoi que ce soit ou d'oublier quoi que ce soit.
Ah, très bien.
Je suis adepte d'accepter ce qui nous arrive et de faire avec. C'est-à-dire que... moi, ma prévalence psychologique, j'ai une prévalence d'abord qui est une prévalence spirituelle. Si on part de cette prévalence spirituelle, on va considérer une chose, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est la grâce de Dieu. Si on part de ce principe-là, ça veut dire que tout ce qui nous arrive, quelle que soit l'épreuve qui arrive, doit nous servir.
Très bien.
Et on doit en faire quelque chose. Et chaque épreuve que nous avons, aussi dure et difficile soit-elle, elle est là pour nous mettre sur la voie d'une réparation personnelle et d'une évolution encore plus grande que celle peut-être à laquelle on avait pensé. Donc déjà, ce genre de modèle, moi, personnellement, je l'aime bien parce que plutôt que de me mettre dans une dimension de victimisation par rapport aux événements de la vie, aux vicissitudes, aux mauvaises rencontres, aux problèmes, aux voleurs, aux violeurs, je vais me mettre dans une disposition dans laquelle, et si ce que je vivais était ce dont j'avais besoin pour passer à un niveau supérieur dans ma vie.
Très bien.
Et,
donc...
et ça veut dire qu'on va d'abord le maître mot de tout dans la vie. C'est acceptation. Et je vais vous dire une chose, on commence à régler 95% des problèmes psychologiques à partir du moment où on sort de la victimisation. C'est-à-dire à partir du moment faisant dans la vie, voilà. Je termine vite.
Non, au contraire, allez-y. J'allais dans votre sens, allez-y.
Dans la vie, on a deux possibilités. Ou on est victime, ou on est créateur.
Très bien.
C'est-à-dire, ou je choisis d'être une victime et de me dire, c'est pas de ma faute. Ce qui m'arrive, c'est horrible, c'est les autres. Alors après, ça peut prendre la victimisation, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être une victimisation familiale, c'est de la cause de mes parents. Ça peut être une victimisation sociale, c'est à cause de l'environnement auquel je suis. Une victimisation gouvernementale, c'est à cause du gouvernement. Ça peut être une victimisation spirituelle. Dieu m'en veut, ok, ou c'est le péché originel. Non. À partir du moment où tu rentres dans un principe de créateur, être créateur de sa vie, c'est d'être le premier responsable de ce qui nous arrive. Et que cette force-là, même si on ne choisit pas ce qui nous arrive, on choisit toujours, et on a toujours ce pouvoir de choisir en tout cas, notre capacité à faire face à l'adversité et de savoir finalement comment je vais réagir moi. Et c'est ça, notre puissance personnelle en tant qu'être humain, il est là. Avant de recabler quoi que ce soit, pourquoi oublier un traumatisme ? Il a été présent. Mais par contre, faisons-en une force. Utilisons ça, ce cynisme, ce chaos, pour me transformer dans la personne que j'ai envie d'être, de devenir, et que j'ai envie d'incarner dans cette vie-là. Voilà. Et ça met dans une perspective qui est complètement différente.
Alors justement, à ce sujet, ça me rappelle une vidéo où vous dites « Le libre arbitre, c'est ça ». C'est-à-dire, je ne choisis pas les événements, mais je choisis comment réagir face aux événements. C'est ça. Vous résumez très bien cette...
C'est ça, le libre arbitre.
C'est ça, le libre arbitre. C'est extraordinaire, parce qu'on a cherché pendant des siècles et vous avez donné la réponse. Et en fait, c'est ça, j'ai un événement et selon comment je réagis, je choisis d'avancer ou je choisis quelque part de reculer ou justement de devenir une victime, comme vous le dites. Très bien.
On choisit pas toujours on choisit pas les événements.
Tout à fait.
C'est compliqué parce que d'abord on vit dans un environnement qui propulse des événements et puis on est dans un mouvement systémique, donc ça veut dire que ce qui arrive aux autres nous affecte toujours. Si demain une personne qui m'est proche est malade, j'ai pas choisi cet événement et pourtant j'y suis connecté. Mais par contre, effectivement, notre pouvoir personnel, il est dans notre capacité de dire ok, face à ces événements, comment je vais réagir? Vous savez, face à la maladie, on peut réagir de mille façons. On peut se dire la vie est terminée, c'est mort. On peut se dire finalement, mon corps, mon esprit m'envoie quelque chose que je dois profondément changer pour passer à un niveau supérieur.
Ça me semble. Encore,
c'est une affaire de choix. Et ce choix, ben, il va conditionner tout le reste de notre vie. En bien ou pas bien d'ailleurs.
Je pense que le message est clair. Et puis alors, pour finir, j'ai une demande à vous faire. C'est une réponse que beaucoup de personnes attendent. Et je pense vous en avoir déjà parlé d'ailleurs. Quelle est donc cette fameuse seconde partie de la vidéo avec le Rav Ben Shetrit ? Je vous le demande. Je vous fais la prière de nous répondre parce qu'on a cherché. Mais on a cherché cette deuxième partie en vain. On ne l'a jamais trouvée. Qu'est-ce qu'a dit le Rav Ben Shetrit de si important au point que vous nous le cachiez ? Allez-y.
Ah, je ne me rappelle plus. Ah, le Rav Ben Shetrit.
Ah, ben moi, je vais vous le rappeler. Je vais vous dire ce qu'il vous a dit. Il n'y a pas de souci.
Alors, rappelez-moi.
Alors, il dit alors, vous faisiez une conférence, vous disiez le Rav Ben Shetrit s'est adressé à moi et il m'a dit David, ce n'est pas ainsi que tu vas réussir. Et on est resté sur notre fin. Vous vous rendez compte ?
Exact. En fait,
Oui.
Alors je ne vais pas vous laisser sur votre faim.
D'accord.
Je me rappelle, j'avais à l'époque un ami, Jonathan, qui se mariait et qui voulait, son rêve, c'était d'avoir les trois rabbanim, le Rav Cohen, Rav Ben Shitrit, et puis il y avait Rav Ranchaya.
Ah, très bien, oui.
Et le Rav Ben Shitrit m'a dit, ok, je peux, mais j'ai le mari de mon fils ce jour-là. Et j'ai dit, écoute, regarde, on avance un peu la roupa, et tu fais ça avec Jonathan et je t'emmène après. Et dans son infinie bonté, parce que c'est vraiment un homme de cœur, Yahya, il a accepté, je l'ai emmené. Et dans la voiture, on a parlé, dans cette voiture, je lui parlais de tout ce que je faisais à l'époque. Et je disais que c'était difficile, je n'arrivais pas à faire face à tout. Il m'a dit, David, tu ne vas pas réussir.
Oh, c'est terrible.
Et là, ouais, ah non, alors c'est terrible, mais en même temps, un homme comme Yahya Ben Shetrit ne peut pas dire quelque chose comme ça.
Oui, c'est-à-dire que derrière, il y avait une solution, je comprends.
Mais c'est obligatoire.
Oui.
C'est-à-dire que cet homme ne peut pas avoir une once de malveillance.
On est d'accord.
Ou d'une phrase de travers. Chaque mot est pensé. Alors, je dis, Yahya, c'est chaud, raconte. Il me dit, mais... Et ça, c'est la deuxième partie. Voilà.
Merci.
Il me dit, David, si tu penses que tout arrive grâce à toi, t'es mort parce que tu vas te mettre une pression et tu vas être tout le temps dans le contrôle. Tu vas vouloir tout contrôler et tu vas prendre très vite avec la vie. Et tu l'apprends déjà qu'on ne peut pas tout contrôler. Alors il dit, voilà, regarde. Le principe de base, il est très simple. Tu fais ta part. Tu fais les choses. Tu donnes tout ce que tu dois donner. Mais tu considères que le résultat ne t'appartient pas. Le résultat appartient à Hachem. Il appartient à Dieu.
Super.
Et ne te soucie pas du résultat. Mais par contre, fais ta part. Et le résultat, il sera toujours en rapport avec ce que Dieu choisit de meilleur pour toi. Et en fait, sans le vouloir, il m'a donné la meilleure définition au monde du lâcher-prise.
Ah, oh, c'est magnifique, oui.
Parce que, il y a un moment donné, c'est vrai, je voulais tout contrôler, parce que je voulais réussir, parce que je voulais faire plaisir à tout le monde, ou plus à moi, je voulais mon développement personnel, professionnel, je voulais tout. Mais à un moment donné, si tu essaies de tout contrôler, eh ben, tu deviens un contrôlant, et quand on devient un contrôlant, on devient tellement stressé qu'on n'est plus opérationnel.
Et qu'on n'est plus créatif.
À un moment donné, je dis, c'est vrai, il faut que je lâche. Et c'est étonnant parce que dans mes équipes, ils sont toujours choqués que, par exemple, quand on lance un nouveau produit ou une nouvelle gamme ou une nouvelle formation, ils sont 10 fois plus stressés que moi. Et ils me disent, mais David, comment t'es pas stressé ? J'ai dit, écoutez, moi, j'ai fait ma part. j'ai tout donné là-dedans. J'ai donné les recherches, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai donné ma pédagogie. Maintenant, le résultat, il ne nous appartient pas. Vous faites votre travail au mieux, mais le résultat final, de toute façon, c'est là où ça se décide. Et ça se décide de toute façon depuis le début de l'année. Donc,
oui,
quoi qu'il arrive, c'est déjà, notre réussite, elle est déjà écrite. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi je vais m'en faire pour quelque chose qui est déjà déterminé ? Maintenant, connaissant le bien qu'on a fait, connaissant la bonne intention qu'on a mis là-dedans,
très bien.
Je doute vraiment qu'on se plante. Voilà. Et on se plante rarement, en fait, en vrai.
Alors,
grâce à Dieu.
Grâce voilà. à Dieu, c'est le cas de le dire. Écoutez, merci ouais. beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Vous nous avez apporté beaucoup.
Avec plaisir.
Et j'espère qu'on aura l'occasion prochainement, bientôt, de vous revoir encore en ligne sur nos ondes, sur Radio Cannes en français. Pour l'instant, je vous remercie et je vous dis vraiment merci d'avoir répondu à mes questions. Et je
Avec
vous souhaite un bon fin, de bonnes vacances. Si vous êtes pendant en vacances, je pense que vous êtes en vacances là, non ?
Ouais.
Voilà.
Alors moi, les vacances, c'est terminé.
Ah bon ?
Et là, je travaille, je prépare la rentrée. On prépare de très grosses choses pour la rentrée. Donc,
donc on peut vous retrouver sur YouTube.
Travailler en Israël, c'est pas du travail. Je passe à côté de la plage tous les jours.
C'est magnifique.
De mon bureau, je vois la plage. Franchement, qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça ? Je suis heureux ici. Voilà.
Alors, je vous souhaite une bonne continuation.
Et c'est quand
oui.
vous voulez.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Je prends note. C'est
Avec
indiqué.
Plaisir. Avec
voilà.
plaisir.
Merci beaucoup, David Lefrançois. Je vous dis à très vite. Au revoir.
À très vite et au revoir à tous les auditeurs.
Au revoir.